France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Les médecins français alertent sur le cadmium utilisé dans certains engrais. Ce produit se retrouve dans notre alimentation. C'est une bombe sanitaire, écrivent-ils à plusieurs ministres. Ils sont inquiets du développement de cancers. Explication dans un instant. Nous intéresserons également à la chasse aux arrêts maladie abusifs des entreprises. On recourt à des huissiers. À suivre encore Donald Trump et les indésirables. Bonjour Isabelle Labéry.
Bonjour.
Le président américain désigne 7 pays dont les ressortissantes ne sont plus les bienvenus.
Émigrer, travailler, étudier, voyager tout simplement aux États-Unis. Pour eux, c'est no way, comme en 2017.
A tout de suite pour vos explications. Nous verrons aussi dans les prochaines minutes que les autoroutes du sud de la France ont été condamnées pour n'avoir pas protégé des automobilistes d'un sanglier. Que l'ombre de François Hollande et de Raphaël Glucksmann plane sur l'élection du premier secrétaire du PS ce soir. Et puis la folle aventure de Loïs Boisson en demi-finale à Roland-Garros cet après-midi, opposée à l'américaine Coco Gauff, sous l'œil de la patronne du tournoi, Amélie Mauresmo.
On sent que le public y répond présent, il est là dans tous les moments. Quand c'est un peu plus dur, ça pousse derrière. C'est fabuleux de voir cet engouement-là et cette énergie-là sur le court.
Le chirurgien qui a opéré la Française du genou il y a un an sera notre invité dans les prochaines minutes. À partir de 13h30, pourquoi l'arabe est-il si peu enseigné à l'école? Faut-il développer cet apprentissage? Comme le préconise un récent rapport, on en parle ensemble et avec nos invités. 01 45 24 7000 pour vos témoignages si on parle cette langue, notamment dans votre famille. 13h50, c'est la France. Des cuisiniers réfugiés en France. À l'honneur, c'est le Refugee Food Festival. Marie-Luce Ribot va nous servir cette cuisine du monde. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson. L'humoriste Mélodie confie sa jalousie maladive à Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
C'est un métal lourd. Alors, il est moins connu que le plomb ou le mercure et il s'est accumulé au fil des années dans nos sols. C'est le cadmium utilisé en agriculture, dans les engrais phosphatés et qui se retrouve aujourd'hui dans des produits comme les pommes de terre, le pain ou encore les pâtes, avec des conséquences pour la santé, nous dit Santé publique France, qui fait le lien avec l'explosion des cas de cancer du pancréas. Bonjour Victor Delande.
Bonjour Jérôme.
Les médecins libéraux français viennent d'écrire au Premier ministre pour l'alerter. On découvre les effets de ce cadmium.
En fait, cela fait plus de 20 ans qu'associations et médecins reviennent régulièrement à la charge sur ce métal lourd. En vain, le cadmium entre dans nos organismes quand on mange ces aliments et il touche de nombreux organes, comme l'explique le docteur Pascal Mévart, coordinateur du groupe de travail santé environnementale de la Conférence des unions régionales des professionnels de santé.
Ça va s'installer un petit peu partout et entraîner plusieurs pathologies, que ce soit au niveau cardiaque, l'insuffisance cardiaque. Ça va entraîner aussi un affaiblissement de la fonction rénale, donc une insuffisance rénale. Ça a une influence aussi sur la reproduction, sur les organes de la reproduction.
Cela entraîne également aussi des dommages au niveau cérébral et on sait maintenant qu'il existe un lien de causalité avec la hausse des cancers du pancréas, dont le nombre a été multiplié par 4 en moins de 30 ans.
Alors justement, jusqu'ici, cette hausse était inexpliquée. Qu'est-ce qui permet de faire le lien?
Alors en fait, ce sont plusieurs études récentes qui le démontrent. Le lien scientifique est désormais bien établi, assure Pascal Mévart.
Plus les taux de contamination du cadmium dans les organismes augmentent, plus certaines pathologies chroniques, dont le cancer du pancréas, augmentent aussi. Il y a une corrélation quand même qui a été objectivée. Et donc, on sait qu'à partir de tel taux de cadmium dans l'organisme, on augmente de tel pourcentage le risque de faire un cancer du pancréas en particulier.
Et ces médecins appellent à plusieurs changements immédiats pour limiter les effets ravageurs de ce cadmium. Essayer de varier au maximum notre alimentation. Prenons l'exemple des pâtes. Il faut essayer de manger des pâtes d'autres origines, plutôt d'Italie quand on le peut, car on s'est aperçu que les pâtes en France sont produites avec des engrais qui proviennent souvent du Maroc et sont particulièrement chargés en cadmium. Autre piste, éviter les céréales au petit déjeuner. Enfin, ces soignants demandent à l'État d'agir pour mieux réguler ces engrais sur nos sols et d'encourager l'agriculture biologique. Le gouvernement devait d'ailleurs se pencher sur cette question. Un plan engrais devait même être présenté en juin 2024, mais il a été victime de la dissolution de l'Assemblée nationale.
Merci Victor Delande. Toujours au rayon santé, on constate depuis 5 ans une forte augmentation des arrêts maladie, souvent liés à des troubles psychologiques d'ailleurs. L'an dernier, selon les chiffres de l'assureur AXA, les arrêts maladie de longue durée, c'est-à-dire plus de 2 mois, ont bondi de 7,5%, ce qui fait tiquer certains employeurs. Bonjour Thomas Giraudeau.
Bonjour Jérôme.
Vous avez découvert que de plus en plus plus d'entreprises font appel à des huissiers pour vérifier que leurs salariés sont effectivement malades.
Ah oui, depuis qu'Olivier Garand a lancé son site contrevisiteenligne.com, 5 contrôles par jour et 200 sociétés, de la petite agence immobilière aux grandes entreprises, ont fait appel à lui. Elles font leur demande sur le site et un huissier va voir si le salarié en arrêt est bien chez lui.
Il y a 4 heures de présence obligatoire au domicile pour un salarié qui est en arrêt maladie, de 9h à 11h et de 14h à 16h. 2 contrôles sur 3 donnent lieu à un constat d'absence du collaborateur à son domicile.
Alors l'huissier fait un rapport à l'entreprise, elle a le droit d'arrêter de verser le complément de salaire, hein. C'est jusqu'à 90% de la rémunération brute, somme qui s'ajoute aux indemnités versées par la Sécu.
C'est pas du flicage, c'est simplement du contrôle. Donc l'idée générale, c'est de faire en sorte que tout le monde respecte les obligations qui lui incombent.
Ah, mais visiblement, les entreprises n'assument pas d'envoyer des huissiers. Aucune des 200 sociétés clientes d'Olivier Garand n'a accepté d'expliquer pourquoi elle recourt à une pratique légale, mais contestée par le médecin du travail Jean-Michel Sterdignac.
C'est surtout un moyen de pression pour que le salarié reprenne le travail, en lui faisant bien remarquer qu'il est en arrêt, mais il est dans le viseur. Évidemment, il y a des gens qui sont des fraudeurs, ces gens doivent être sanctionnés, mais dans la plupart des cas, si les gens sont en arrêt de travail, c'est qu'il y a des raisons. Si on veut diminuer cet absentéisme, il faut s'attaquer aux racines profondes.
Qui sont, d'après le médecin et les salariés en arrêt interrogés dans plusieurs études, la surcharge de travail, le stress et des relations tendues avec collègues et supérieurs.
Merci Thomas Giraudeau. Coup des les arrêts maladie pour la Sécu, c'est 400€ par an et par salarié. Pour elle, là, il n'y a aucun doute. La nouvelle star du tennis français, Loïse Boisson, était bien sur une jambe il y a un an. Elle venait tout juste d'être opérée du genou et la voilà prête à disputer cet après-midi la deuxième demi-finale des internationaux de tennis de Roland-Garros opposée à l'américaine Coco Gauff. C'est une première pour une joueuse qui a bénéficié d'une invitation pour participer à ce tournoi, je le rappelle, et nous serons en ligne dans un instant avec le chirurgien qui l'a opéré et nous dira comment ce rétablissement a été possible. D'abord, allons à Roland-Garros pour prendre la mesure du phénomène Boisson. Bonjour Erwan Chassin.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Vous êtes à l'entrée du site. Loïse Boisson, inconnue il y a encore quelques jours, est en train d'éclipser les stars du tournoi.
Ah oui, hein, Loïse Boisson devenue véritable phénomène du tennis mondial. Elle qui, vous l'avez dit, jusqu'à il y a 3 semaines à peine, hein, était presque une inconnue du grand public. Et bien maintenant, c'est elle que ce public suit de près. Bruno, par exemple, on oublie presque le reste de la compétition.
Et alors, est-ce que vous savez quelles sont les demi-finales hommes ?
Comme ça, non, faut que je regarde. Non, il y a Sinek Djokovic dans une demi et l'autre, honnêtement... Moi je suis focus sur la petite française. Ah bah, ce qu'elle réalise, c'est complètement dingue.
Pour Romain, lui, Roland-Garros se résume en fait à Loïse Boisson.
Est-ce que vous connaissez les demi-finales femmes ce soir ?
C'est Loïse Boisson.
Face ?
Je sais pas.
Est-ce que vous connaissez les demi-finales hommes ?
Non, je les ai pas.
Et est-ce que vous trouvez que le phénomène Loïse Boisson éclipse un peu tout le reste là aujourd'hui ?
Ça me concerne, oui, totalement. Je connais que elle, là, en réalité.
Mais Romain, au moins, sera en tribune. Une chance, parce que malheureusement, je viens de regarder sur l'application Roland-Garros et beaucoup d'autres fans de la joueuse vont devoir suivre le match depuis leur canapé, comme Simon.
Ouais, on cherche. On a essayé de chercher un peu, mais il y a tout le monde qui s'est rué dessus, au final.
Et on comprend, parce que cet énorme engouement pour la combattante. On espère évidemment que tout à l'heure, aux alentours de 15h, cette demi-finale face à la numéro 2 mondiale, Coco Gauff, ne soit que du petit lait pour Loïse Boisson. De quoi, en tout cas, relancer l'espoir d'un triomphe final couleur bleu-blanc-rouge à Roland-Garros.
Ouais, il reste encore 2 marches. Merci Erwan Chassin, en direct de l'entrée de Roland-Garros avec les moyens techniques de Geoffrey Marianne. Bonjour Bertrand Sonnericoté.
Bonjour monsieur.
Vous êtes chirurgien orthopédique. C'est vous qui avez opéré Loïse Boisson il y a un an après sa rupture du ligament du genou. Merci d'être en ligne avec nous. Je précise que vous opérez régulièrement des sportifs de haut niveau, le footballeur Zlatan Ibrahimovic notamment. Est-ce que vous diriez qu'elle est un cas à part ?
C'est intéressant. D'abord, ce que je remarque, et votre partage le montre, c'est qu'elle a su créer une émotion extraordinaire dont je n'y échappe pas, bien évidemment, par ses prouesses tennistiques,
mais
aussi par sa physique et surtout par sa personnalité. Je dirais, ce qui a été très impressionnant chez cette joueuse, c'est qu'elle a une rigueur et une exigence avec elle-même qui est considérable. Et c'est grâce à cela qu'elle en est là. C'est-à-dire que ce qu'on sait sur le plan chirurgical, c'est qu'on a beaucoup progressé sur les 15 dernières années. C'est-à-dire qu'on est capable maintenant de ramener un sportif de niveau au sport qu'il faisait avant. Quant à être plus performant après la chirurgie qu'avant, j'ai pas souvenir que ça puisse survenir sur beaucoup d'athlètes.
Elle vous a demandé très vite de retaper des balles au bout de 3 mois, je crois.
Oui, ça c'était assez marrant. C'est qu'on a un suivi donc, qui est très régulier. Elle était toujours en avance sur les temps de passage de sa récupération. Et à partir de 3 mois, elle m'a quasiment harcelé par WhatsApp en me demandant si elle pouvait taper des balles. Donc je lui ai expliqué que c'était très dangereux pour son genou parce que bien évidemment, si à ce moment-là, il y a la moindre torsion, elle peut casser sa greffe. Et alors, elle a eu une réponse extraordinaire en me disant « Mais j'ai bien compris, mais si jamais je tape les balles assises, est-ce que cela pose un problème pour mon genou ?» Donc j'ai cédé et elle a commencé à taper les balles très tôt pour être dans son sport favori et ne pas être coupée trop longtemps. Elle a vraiment une volonté extraordinaire.
Est-ce qu'il y a toujours des risques pour elle aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes en lien avec elle ? Est-ce que vous échangez d'un point de vue médical toujours avec elle ?
Alors, malheureusement, les risques sont toujours inhérents à ce type de procédure. On sait que chez les hauts niveaux, malheureusement, on a à peu près 15% de rechutes qui concernent le genou opéré ou le genou contralatéral, malheureusement. Ça, plus on attend longtemps par rapport au délai de la chirurgie, moins les risques sont importants. Oui, je suis en contact. Elle m'a appelé dimanche parce qu'elle avait des petites douleurs dans son 8e de finale, mais rien de très sérieux, ce qui est des douleurs, je dirais, logiques compte tenu du délai. Reprendre à ce niveau-là un an après une chirurgie, c'est un exploit considérable.
Merci Bertrand Sonnery-Côté d'avoir été en ligne avec nous, chirurgien orthopédique. Vous serez évidemment devant votre écran cet après-midi pour cette demi-finale à partir de 16h 30 face à Coco Gauff, la première demi-finale, opposera la Bélarusse Arina Sabalenka, numéro 1 mondial, à la Polonaise Iga Swiatek, triple vainqueur du tournoi. Plus que 2 semaines pour trouver un accord sur la réforme des retraites. Syndicats et patronats se retrouvent cet après-midi pour la suite des négociations. Ils n'ont plus que 3 séances devant eux pour aménager la réforme de 2023, c'est-à-dire le départ à 64 ans, toujours rejeté d'ailleurs par une majorité de Français, nous disent les sondages. Rejeté également désormais par une majorité de députés. Bonjour Laurence Perron.
Bonjour.
Vous êtes à l'Assemblée où ce matin, pour la première fois, les députés ont voté l'abrogation de cette réforme, même si c'est un vote symbolique.
Symbolique, mais net et sans bavure.
Pour 198 contre 35, l'Assemblée nationale a adopté.
Symbolique, mais utile. Le RN, Sébastien Chenu.
Ce vote, il est symbolique. Il montre qu'il y a en France une réforme qui n'est pas digérée, qui n'est pas acceptée et que les députés, en tous les cas du Rassemblement national, sont déterminés à continuer à poursuivre le combat.
La preuve pour François Ruffin qu'Emmanuel Macron préside contre le peuple.
Et maintenant, c'est une vaste majorité à l'Assemblée qui dit non. Et on a un homme tout seul en haut qui prétend passer par-dessus le pays et la démocratie. Ben, ça rend les gens pas contents de ça.
Les macronistes ne se sont même pas déplacés. Ils ont eu raison, estime le député Pierre Cazeneuve.
Je n'ai même pas envie de réagir et d'alimenter l'immense farce et le mensonge perpétré auprès des Français. Laisser entendre qu'on peut revenir à 62 ans, et c'est un mensonge de faire semblant qu'il y a eu un vote et que c'est un texte qui avait quelconque portée aujourd'hui.
Pour la gauche, c'est un coup de semonce. Cyrielle Chatelain, patronne des députés écologistes.
François Bayrou, contrairement à l'engagement qu'il avait pris, n'a pas ouvert tous les sujets, mais a refusé d'ouvrir la question de l'âge de départ à la retraite. Donc non, le conclave ne réparera pas, c'est un mensonge.
On est dans le symbole, certes, mais le gouvernement est averti sur cette question des retraites. Il existe une majorité pour le faire tomber.
Laurence Perron avec Florent Layani à l'Assemblée nationale. Le syndicat CGT organise plusieurs rassemblements cet après-midi contre cette réforme, notamment un défilé à partir de 14h à Paris. L'une des explications de ce départ de plus en plus tardif des salariés à la retraite, c'est l'arrivée tardive, elle aussi, des étudiants sur le marché du travail. Eh bien, elle pourrait être encore décalée à l'avenir, car dans le plan orientation qu'elle vient de présenter, la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, veut favoriser ce qu'on appelle une année de césure. Bonjour Sonia Princé.
Bonjour.
Bon, ça peut être une année en service civique ou à l'étranger, c'est ça ? Pourquoi cette idée ?
Alors l'objectif est de permettre aux jeunes de 17, 18 ans de découvrir autre chose que les bancs de l'école. Le monde associatif, le monde du travail, en France ou à l'étranger. À cet âge-là, ils ne savent pas toujours ce qu'ils veulent faire. Ils pourraient mûrir leur choix, ce qui éviterait sans doute beaucoup de réorientation. Aujourd'hui, près d'un étudiant sur 5 change de voie après une première année d'études. Cette année de césure serait valorisée, l'étudiant obtiendrait des crédits universitaires pour valider par la suite ses diplômes. C'est une pratique très répandue en Europe, notamment en Suède où elle est généralisée après le bac.
Alors ça se fait très peu en France, et 1,3% des néo-bacheliers. Est-ce qu'on sait pourquoi ?
Eh bien parce qu'ils veulent avant tout sécuriser leur place dans Parcoursup. En général, ils commencent leur formation et font une coupure plus tard. C'est ce qu'a fait Léa après sa licence de psychologie. Elle a passé 1 an en Australie.
Dans mon voyage, ça m'a permis de m'ouvrir
à plein d'autres choses, de m'ouvrir aux gens, de m'ouvrir à d'autres idées de travail. C'est-à-dire que quand je suis rentrée, après, j'ai pu faire des choses que je pensais ne pas être capable de faire, comme partir en saison ou partir voyager toute seule. Ça m'a donné beaucoup d'autonomie. Après, faut être prêt à reprendre les études derrière. C'est du boulot, une fois qu'on se fait une année de pause. Moi, j'ai pas pu reprendre.
Et c'est le risque, des professeurs me l'ont confirmé, les commissions d'examen des vœux de Parcoursup ne voient pas forcément d'un bon œil ces années de césure après le bac. Dans les formations sélectives, par exemple les classes prépa, les enseignants déconseillent même de se couper des études.
Merci Sonia Princé. Le meurtrier présumé d'Hichem Mirawi, samedi à Pugey-sur-Argence dans le Var, présenté à un juge antiterroriste aujourd'hui avant une possible mise en examen. Cet homme a justifié son acte dans deux vidéos par des motivations racistes. Deux marches blanches d'hommage à la victime sont en préparation pour dimanche. La justice soupçonne, et on le savait déjà, la ministre de la Culture, Rachida Dati, d'avoir fait du lobbying au Parlement européen pour le groupe Renault-Nissan. Elle est mise en examen pour cela depuis 4 ans, pour corruption et trafic d'influence, ce qu'elle nie. A-t-elle par ailleurs touché de l'argent d'un autre groupe, GDF Suez, aujourd'hui Engie, quand elle était eurodéputée? L'ex-garde des Sceaux s'en défend, mais une enquête de France Télévisions et du magazine L'Obs fragilise sa version. Bonjour Charlotte Piret.
Bonjour.
D'ailleurs, le parallèle entre les deux affaires est étonnant.
Oui, on peut même parler d'un enchevêtrement, puisque c'est lors d'une perquisition dans le dossier Renault que sont découverts les éléments aujourd'hui révélés par nos confrères. En l'occurrence, la trace de deux versements en 2010-2011, accompagnés de la mention Dati honoraire GDF Suez, montant total 299 000 euros, qui ont transité via un cabinet d'avocats avant d'atterrir sur les comptes de l'eurodéputé. Impossible donc rétribution de ses activités au Parlement européen, comme par exemple ses amendements proposés totalement alignés avec les intérêts des grands groupes énergétiques comme GDF Suez, soit exactement le même type de fait que ceux qui valent à Rachida Dati d'être mise en examen dans le dossier Renault, vous l'avez dit, puisqu'il lui est reproché d'avoir perçu 900 000 euros en échange, là encore, d'un lobbying formellement interdit au Parlement européen. Alors, à la différence de ce qui n'est pas encore une affaire judiciaire GDF Suez, le dossier Renault, lui, pourrait aboutir prochainement sur un procès en correctionnel. C'est en tout cas ce qu'a réclamé le parquet national financier. Enfin, prochainement, pas tout à fait, parce que du fait de très nombreux recours, ce sera forcément après les municipales et la course à la mairie de Paris, principal, pour ne pas dire unique objectif de Rachida Dati.
Charlotte Piret, là, c'est le tribunal administratif de Pau qui s'est prononcé, qui vient de condamner les autoroutes du sud de la France pour leur responsabilité dans la mort accidentelle il y a 2 ans d'une jeune chanteuse basque, Leïr Iribarne. Elle avait été victime d'un accident sur l'autoroute A64, accident provoqué par un sanglier. En fait, Paul Nicolai, le grillage de l'autoroute était défaillant.
La faute aux ASF, la filiale de Vinci Autoroute. Le tribunal administratif estime en effet que la société a péché dans la protection de l'ouvrage public, en cause un grillage détruit sur une longue portion par laquelle le sanglier a pu en pleine nuit traverser l'autoroute, entraînant un carambolage entre 3 véhicules. Dans l'un d'eux, Leïré Iribarne Lagaraï, 24 ans, passagère de l'un des véhicules, percutée par l'arrière par une voiture arrivant à vive allure. Pour condamner les ASF, la justice s'est fondée sur 3 constats, explique l'avocat de la famille de la victime, maître Nicolas Taquet.
D'abord, il y avait une ouverture de 80 mètres de long le jour de l'accident, à l'endroit de l'accident. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est un agent de Vinci Autoroute. Ensuite, il y a eu des très nombreuses réparations qui ont été effectuées dans les heures qui ont suivi l'accident. Donc pour moi, c'est vraiment un aveu de culpabilité. Et puis, dernière chose, nous avons fait intervenir un huissier de justice plusieurs mois après l'accident. Et cet huissier de justice a constaté que les clôtures à l'endroit de l'accident étaient en piteux état et permettaient sans problème le passage d'un animal.
Le papa de Leïré se déclare soulagé et satisfait de la décision, même si bien sûr, le mal est fait à tout jamais.
Ici Pays Basque pour ce reportage. L'animateur de TF1, Christophe Beaugrand, ainsi que son mari, ont été les victimes d'une tentative de cambriolage, un homejacking. La nuit dernière, cela s'est déroulé à leur domicile de Sèvres, dans les Hauts-de-Seine. Une enquête pour vol et violence aggravée est ouverte. Les agresseurs ont pris la fuite.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Qui sera le futur patron du Parti Socialiste? Les 40 000 militants à jour de cotisation votent ce soir pour le second tour. Deux candidats en lice, l'actuel premier secrétaire Olivier Faure et son challenger, le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol. Ça, c'est pour l'affiche officielle. Mais derrière, il y a deux noms qui planent sur cette élection. Deux hommes dont tout le monde parle au PS, François Hollande, l'ancien président, et puis l'eurodéputé Raphaël Glucksmann, qui menait l'une des listes de gauche lors des dernières élections européennes. Bonjour Lise Rosveil.
Bonjour.
Commençons par François Hollande. C'est le camp d'Olivier Faure qui en parle le plus.
François Hollande est sur le porte-bagages de Nicolas Mayer-Rossignol, tacle l'un des proches du premier secrétaire. Autrement dit, si le maire de Rouen l'emporte, c'est le retour du hollandisme au Parti Socialiste, voire même un marchepied pour sa future candidature présidentielle. Face aux attaques, Nicolas Mayer-Rossignol répète qu'il n'a jamais travaillé avec lui, contrairement à son adversaire, comme si le nom de François Hollande était un véritable repoussoir. C'est le bouc émissaire de cette campagne, s'agace un de ses proches. Le principal intéressé trouve ses arguments absurdes et souligne sa popularité. Je suis plutôt un atout qu'un handicap. Il se veut à distance de la campagne, mais pour 2027, il n'abandonnera jamais, lâche Olivier Faure.
À l'inverse, Raphaël Glucksmann, au contraire, lui est courtisé par les deux candidats.
Sa notoriété est une force, reconnaissent les deux camps. Dans les derniers sondages, le patron de Passe Publique fait jeu égal avec Jean-Luc Mélenchon. Olivier Faure veut donc qu'il participe à sa grande primaire de la gauche non mélenchoniste. Mais Raphaël Glucksmann refuse, il l'a déjà dit. Notre formule sans primaire a au moins le mérite de garder Glucksmann chez nous, sourit un soutien de Nicolas Mayer-Rossignol. Le maire de Rouen veut élargir le PS en tendant la main au patron de Place Publique. Une question reste en suspens, Raphaël Glucksmann a-t-il vraiment envie de la présidentielle? Il a prévu en tout cas de rencontrer le gagnant au lendemain du congrès, peu importe son nom.
Merci Lise Rosveil, résultat attendu tard dans la nuit. Au Proche-Orient, les services israéliens ont réussi à ramener les corps de deux otages qui avaient été enlevés le 7 octobre, deux otages israélo-américains qui étaient détenus par le Hamas dans la bande de Gaza, annonce faite ce matin par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Donald Trump, lui, renoue avec ses interdictions d'entrée sur le territoire américain, comme lors de son premier mandat. Les ressortissants de 12 pays seront bannis dans quelques jours et pour 7, il y aura davantage de restrictions. Isabelle Labéry, on vous retrouve. Est-ce qu'on sait plus précisément qui va être concerné à partir de lundi prochain?
Alors, ce sera plusieurs centaines de milliers de personnes qui souhaitaient demander un visa d'immigration, un visa pour étudier, pour travailler, ou même comme simple touriste, pour ceux, par exemple, qui ont de la famille aux États-Unis. Dans le viseur de Washington, il y a d'abord les pays dont les ressortissants ont tendance à rester sur le sol américain après la date d'expiration de leur visa. Birmanie, Tchad, Érythrée, mais aussi ceux qui ne partagent pas leurs informations sur le profil dangereux de certains individus. Pour tous ces pays, c'est interdiction totale et on ne sait pas pour combien de temps. Dans les pays qui font l'objet de restrictions supplémentaires, comme le Togo, Cuba ou le Venezuela, les contrôles seront renforcés. Il faudra passer un entretien en personne à l'ambassade. Certains individus, malgré tout, sont épargnés. Les footballeurs qui participeront à la Coupe du Monde l'an prochain, les athlètes des Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028, exemptés aussi ceux dont le déplacement servira l'intérêt national des États-Unis. Ça, c'est le ministère des Affaires étrangères qui décidera au cas par cas. Donald Trump donc récidive, mais cette fois-ci, il y a quand même quelques jours entre l'annonce et sa mise en œuvre, de quoi éviter peut-être les innombrables scènes de pagaille dans les aéroports en 2017, lors de la première interdiction formulée, elle, sans préavis contre cette pays à majorité musulmane.
Isabelle Labéry, le président brésilien Lula est en visite officielle en France. Conférence de presse avec Emmanuel Macron en ce moment à l'Élysée. Alors il y a des sujets qui rassemblent les deux présidents. La protection de l'environnement par exemple. Lula va se rendre au sommet de Nice sur les océans. Mais il y a aussi un gros désaccord sur le traité de libre-échange, le Mercosur avec l'Amérique du Sud. Le président brésilien exhorte à l'instant Emmanuel Macron à conclure cet accord commercial. Fin de citation. Car la France s'y oppose toujours, mais elle est bien seule à le faire au sein de l'Union européenne. Alors les représentants des filières agricoles s'inquiètent. Ils demandent un rendez-vous au président français. Patrick Bénézy est le vice-président d'Interbev, l'interprofession bovine.
C'est le moment d'être très clair au niveau des autorités françaises. On pense au chef de l'État, bien évidemment, hein, qui, on le rappelle, a son droit de veto. C'est un accord qui nécessite l'aval de tout le monde pour passer aux minorités de blocage. Ça veut dire que c'est bien de ne pas être seul, puisqu'il y a d'autres pays européens qui ne souhaitent pas cet accord. Mais au cas où, il y a cette possibilité qu'a le chef de l'État de poser son veto. Et on attend du président Macron qu'il soit extrêmement ferme et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté vis-à-vis du président Lula, mais également de la Commission européenne, puisque c'est elle qui a autorité pour mener à bien ou pas cet accord, mais elle ne peut pas le faire sans la voix de la France.
Patrick Bénézy au micro de Maria Melkurdi. Libye. La diplomatie française qui est aussi à la manœuvre pour faire libérer l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, détenu par Alger depuis 201 jours. Et pour la première fois, l'un des romans de Boualem Sansal est adapté au théâtre. Le village de l'Allemand, où le journal des frères Schiller, Grand Prix de la francophonie 2008, est donné en ce moment dans le cadre du mois Molière-Versailles. Tout cela grâce à son ami Thierry Auzerre. Stéphane Capron l'a rencontré.
Ce roman devait être adapté au cinéma par Costa Gavras. Quand le projet est tombé à l'eau, Thierry Auzerre a saisi l'occasion et a réussi à convaincre son ami. C'était en 2020.
Boualem, et je pense à toi où tu es, a, comment dire, peut-être un peu de réticence à voir son écriture transformée en spectacle vivant encore plus, mais peut-être même déjà au cinéma, en se disant mais qu'est-ce qu'ils vont donc en faire? Et puis il y a une confiance qui est née entre nous. Du coup, quand je lui ai proposé ça et quand il m'a dit oui, je lui ai envoyé l'adaptation. Il m'a dit c'est très bien.
Ce roman de Boualem Sansal est une plongée dans les horreurs du nazisme et du terrorisme islamiste. Une œuvre qui permet d'éclairer le public sur ses combats pour la liberté, la justice, la mémoire. Thierry Auzerre espère que sa pièce fera un peu plus bouger le monde de la culture pour la libération de son ami.
Les artistes, en France en tout cas, on est dans une période où les gens sont très calmes. Peut-être qu'ils ont peur de ne plus avoir assez d'argent pour travailler, je ne sais pas si ça vient de là, mais en tout cas, moi je crois qu'il faut remonter au créneau. Il faut le faire entendre. Il y a des gens qui écrivent des choses extraordinaires et qui sont en prison. Boualem, c'est le cas et il faut qu'il sorte, bien sûr. Aidez-nous.
Thierry Auzerre mise beaucoup sur le procès en appel de Boualem Sansal le 24 juin pour que le romancier retrouve la liberté.
Alors la pièce est donnée ce soir dans le cadre du mois Molière, c'est à Versailles, et puis au mois de juillet au Petit Louvre dans le cadre du Festival Off d'Avignon. Et puis le chanteur Taïk, qu'on écoute ici, deuxième artiste français le plus écouté dans le monde, annonce ce matin sur Inter qu'il veut faire une grande pause dans sa carrière. Je m'arrête car l'année 2024 a été, dit-il, très très difficile, marqué notamment par la mort de l'un de ses proches, Taïk, qui donnera un dernier concert le 10 novembre prochain. Ce sera au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Vous réécoutez cette interview de Taïk sur l'application Radio France, 13h27 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo de Sébastien Léas. Puis à partir de 13h30, faut-il enseigner davantage la langue arabe à l'école? Aujourd'hui, les collèges et les lycées qui le font sont très rares. Le récent rapport sur les frères musulmans propose de le faire. Que savez-vous de cette langue? Est-ce que vous la parlez? 01 45 24 7000. Venez échanger avec nous, avec nos invités qui nous rejoignent. 13h45, notre feuilleton Parole de pêcheur sur la Côte d'Azur. Deuxième épisode, nous sommes à Saint-Jean-Cap-Ferrat. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Marie-Luce Ribaud et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Bonjour Jérôme.
Marie-Luce, cuisine du monde avec vous aujourd'hui.
Oui, cuisine métissée et solidaire. Le Refugee Food Festival se déroule en juin dans les grandes villes françaises. Il rassemble le temps d'un repas, un chef et un réfugié. En 10 ans, 70 000 personnes ont pris goût à cette joyeuse expérience de l'hospitalité.
Et avec vous Frédéric, une humoriste.
Mélodie Fontaine, que l'on entend régulièrement le matin chez Nagui sur oui. France Inter et qu'on peut voir sur scène dans son spectacle Nickel. Et avec elle, c'est une chanson de Benoît Dorémus que nous écouterons. Une chanson sur la jalousie. Mélodie Fontaine est depuis toujours affreusement jalouse, mais elle se soigne, m'a-t-elle dit.
Allons-nous nous reconnaître dans son témoignage?
Hop, 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 hop.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
Pourquoi Banque Populaire est la première banque des entreprises?
Développer mon entreprise et maîtriser son impact sur la société et l'environnement, c'est un vrai défi. Alors Paul, mon conseiller Banque Populaire, m'a parlé du prêt à impact. Si mon entreprise atteint ses objectifs de RSE, elle peut bénéficier d'un remboursement d'intérêt.
Soutenir nos entreprises clientes dans leur transition durable, c'est ça être la première banque des entreprises. Banque Populaire, la réussite est en vous. Sous réserve d'acceptation par votre Banque Populaire. Étude Kantar PME PMI 2023, 14 Banques Populaires, première banque des PME.
Il est... Comment dire...
Bon?
C'est ça, il est bon ton jambon.
Jambon de Bayonne.
Ah bah oui.
Le jambon de Bayonne, bon pour le goût, bon par engagement, bon tout simplement.
Pour votre santé, bougez plus.
France Inter, partenaire du Festival International de la Métropole de Lyon du 2 juin au 26 juillet. Plus de 140 représentations de théâtre, danse, magie, cirque, cabaret et concerts pour deux mois de fête. Avec Grace, du chorégraphe Benjamin Millepied, Bess Gibbons, The Kills, Hervé, Mazel Fretten, Georgia Smith, Geza Felstein ou encore Le Petit Cirque, la nouvelle création de Pomme, Marie et Johan Bourgeois. Les Nuits de Fourvière, du 2 au 26 juillet. Un événement France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec TGV Inouï. Trouvez votre coin de ciel bleu dans une de nos 200 destinations en France et vers l'Europe.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Arrivé cet après-midi d'une perturbation par le nord-ouest.
Effectivement, une perturbation atlantique qui s'est déjà infiltrée entre les côtes de la Manche, la Champagne-Ardenne, le centre-Val de Loire et le Poitou-Charentes. Alors pour l'instant, les pluies sont faibles et intermittentes, mais des pluies plus régulières vont gagner la Bretagne, la Normandie et les Pays de la Loire. Ces pluies vont même se réactiver et devenir parfois soutenues à partir de la deuxième partie d'après-midi et durant la soirée entre le Cotentin et les Hauts-de-France. Il faudra aussi composer avec du vent sur le quart nord-ouest cet après-midi. Les nuages de cette perturbation débordent jusqu'au bassin d'Arcachon, au nord de l'Auvergne, à la Bourgogne-Franche-Comté et à l'Alsace. Sur les régions du sud, l'après-midi est plus lumineux, hormis près du relief où le ciel sera un peu plus chargé avec quelques petites averses localisées. Les éclaircies vont s'affirmer au fil de l'après-midi, le soleil étant parfois juste un peu voilé. Et puis avec ce temps perturbé, les maximales seront en baisse sur le quart nord-ouest cet après-midi. Il fera seulement 15 degrés à Brest, prévoyez 20 degrés à Paris, 23 degrés à Strasbourg, 22 degrés pour Bordeaux et Biarritz, 24 degrés à Toulouse, Nice et à Lyon, mais tout de même 25 degrés à Marseille, 27 à Nîmes et 28 à Ajaccio.
Merci Sébastien Léas, Météo France.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Quelle est la deuxième langue la plus parlée de France ? C'est l'arabe, entre 3 et 4 millions de locuteurs dans notre pays, même si les chiffres sont peu précis. Pourtant, seuls 15 à 20 000 élèves apprennent cette langue au collège et au lycée, soit deux fois moins que le chinois, par exemple, et infiniment moins que l'anglais. C'est un paradoxe. Plusieurs ministres de l'Éducation nationale, de bords politiques différents d'ailleurs, ont essayé d'y remédier, mais sans réussite. Le rapport sur les frères musulmans, rendu il y a deux semaines, préconise à son tour de développer cet enseignement à l'école, plutôt que d'en laisser, dit le rapport, l'apanage aux seuls islamistes. Voilà pourquoi nous avons décidé d'en parler aujourd'hui avec nos deux invités. Je vous les présente. Catherine Navbekti, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire générale du syndicat CFDT Éducation, Formation, Recherche Publique, et nous serons rejoints dans quelques minutes par Nisrine Alzareh, qui est directrice du Centre de Langue et Civilisation Arabe. 01 45 24 7000. Pour vos questions, vous passez également via l'application Radio France. Catherine Navbekti, pourquoi l'arabe est-il aussi peu enseigné aujourd'hui dans notre pays, alors que effectivement c'est une langue qui est très parlée ?
Alors l'arabe est aussi peu enseigné aujourd'hui dans les établissements du second degré parce qu'il n'y a pas eu de politique de développement de l'enseignement de l'arabe dans les établissements scolaires. Et pour y parvenir désormais, il faudrait arriver à former des enseignants. On en a la capacité dans les universités françaises, mais encore faut-il une décision politique d'implanter l'enseignement de l'arabe dans davantage d'établissements.
Sylvie est en ligne avec nous. Bonjour Sylvie.
Bonjour.
Vous nous appelez de Bagnolet, tout près de Paris. Vous avez voulu faire apprendre l'arabe à vos enfants, c'est ça ?
Absolument. Aujourd'hui, ils ont plus d'une trentaine d'années. Et à l'époque, j'ai voulu faire apprendre l'arabe à mes enfants, puisque leur père était d'origine algérienne. Les grands-parents ne parlaient que arabe. Donc je voulais qu'ils communiquent avec leur famille paternelle. Or, il a été impossible de trouver un cours d'arabe.
Il n'y avait aucune école près de chez vous qui proposait cet enseignement.
Pardon ?
Il n'y avait aucune école près de chez vous qui proposait cet enseignement.
Absolument. Et du coup, à mon insu, mon mari les a inscrits à une école qui m'a dit publique. Et en fait, ils se sont retrouvés dans une école coranique. Et je l'ai su par mes enfants. Et donc, je les ai retirés immédiatement. Mais je me dis que 30 ans après... on en est toujours là, à ne pas pouvoir avoir l'enseignement de l'arabe dans une école publique, ce qui peut amener à des dérives et complètement, à des aberrations qu'on subit en tant que parents.
Merci Sylvie pour votre témoignage. C'est un peu le sens du rapport rendu il y a deux semaines, Catherine Navbekti, sur l'influence des frères musulmans en France. Et ses rédacteurs expliquent que s'il y avait davantage de possibilités d'apprendre l'arabe, ça éviterait que des parents soient tentés de mettre leurs enfants à l'école coranique où il peut y avoir des enseignements bons ou moins bons ou d'autres avec des conséquences funestes.
Oui, et puis pour la CFDT, Éducation, Formation, Recherche Publique, on pense aussi qu'il faudrait pourrait aborder la question de l'enseignement de l'arabe comme l'enseignement de n'importe quelle langue vivante en France, ne pas forcément le rattacher ni à l'histoire migratoire et de fait en grande partie à l'histoire coloniale française, ni non plus seulement à la question de l'entrisme islamiste, parce qu'en réalité, on avancera aussi quand on traitera cette langue comme n'importe quelle autre langue vivante dans notre pays.
Mais manifestement, c'est quand même un sujet, nous dit Sylvie.
Oui, parce qu'il y a des endroits où l'enseignement de la langue arabe qui est dispensé par des mosquées peut être préempté par des structures qui vont avoir des tendances intégristes. Ce n'est pas le cas tout le temps. Il ne faut pas non plus généraliser dans ce sens-là. Et puis surtout, ça veut dire qu'on renonce à avoir accessible pour beaucoup de familles un enseignement de la langue arabe qui soit laïque et non pas connecté à la religion.
C'est-à-dire qu'il y a souvent le raccourci de langue arabe, islam. Et les deux ne sont pas forcément connectés. On peut vouloir apprendre l'arabe et ne pas être pratiquant, ou l'être d'ailleurs, mais il n'y a pas forcément de lien entre les deux.
Tout à fait.
Vous nous disiez en introduction, on forme très peu d'enseignants en France pour apprendre l'arabe. Pour quelle raison ?
Ben parce que comme on a peu d'enseignements d'arabe dans les établissements scolaires, donc on a peu de besoins d'enseignants de langue arabe, donc il y a peu de postes au concours, et s'il y a peu de postes au concours, il y a peu d'endroits où on forme des enseignants d'arabe. Et pourtant, il y a dans les universités françaises des formations en langue, littérature et civilisation arabe qui permettraient d'avoir un vivier d'étudiants pour de futurs concours de recrutement d'enseignants de la langue arabe.
Nous sommes en ligne avec Georges. Bonjour Georges.
Bonjour.
Vous nous appelez du département du Var. Vous enseignez l'arabe ?
Oui, mais je voudrais présenter les choses un peu autrement. Je ne parle pas l'arabe.
D'accord.
Je ne parle pas l'arabe, j'ai voulu moi-même l'apprendre. Donc j'ai suivi des cours collectifs, privés, à deux reprises, trois reprises, et à chaque fois ça a été un échec. Ça a été un échec, mais pas un échec que pour moi. Ça a été aussi un échec pour tous les autres élèves du cours. Et encore, j'ai été celui qui a tenu le plus longtemps.
D'accord.
Pourquoi ? Parce que la méthode pédagogique est abrupte, pénible, difficile. Et or, l'arabe n'est pas une langue aussi difficile qu'on veut bien le dire. Bon, par la suite, je me suis débrouillé moi-même avec des livres et j'ai créé une méthode. Une méthode qui, je ne fais pas de publicité, mais j'ai créé une méthode qui, en 2 mois et demi, 3 mois, permet à une personne qui y consacrerait 10 à 15 minutes par jour de savoir lire et écrire. Et dans le même temps, bien entendu, d'avoir des rudiments de grammaire et de langage.
Pourquoi vous êtes tourné vers cette langue, Georges ?
Oh ben, je suis né dans un pays arabe et j'ai beaucoup entendu parler arabe quand j'étais enfant. Ma mère parlait très très bien l'arabe, mon père moyennement, et j'ai une affinité pour le monde arabe, voilà, comme ça. Mais je suis français de souche.
Merci.
Malgré ma naissance.
Merci Georges pour ce témoignage. Je vais faire réagir notre invité. Quelle peut être la solution ? C'est d'ouvrir davantage de postes au concours, c'est de former davantage d'enseignants, et éventuellement, combien de temps ça peut prendre ?
Alors, à la CFDT, on pense qu'il faut une politique dans la durée qui vise des objectifs d'ouverture de classes d'enseignement de la langue arabe dans les établissements scolaires et de construire en conséquence la progression des recrutements au concours et ainsi de pouvoir indiquer à des étudiants et étudiantes qui sont déjà dans les universités qui étudient l'arabe que ce débouché existe.
Ça peut prendre beaucoup de temps ?
La formation d'un enseignant après le bac, c'est 5 ans. Mais il y a aujourd'hui des étudiants dans les universités en licence qui pourraient être intéressés, qu'on leur propose d'entrer en master MEF d'enseignement de la langue arabe.
Je l'ai dit, Najat Vallaud-Belkacem, ministre socialiste de l'Éducation nationale, avait émis cette piste, reprise par Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale d'Emmanuel Macron. Et à chaque fois, les choses ne sont pas allées au bout. Pour quelles raisons ?
Alors, à chaque fois, ce qui s'est passé, c'est que ces deux ministres, mais d'autres avant eux deux, ont été complètement coupés dans leur volonté d'avancer sur le sujet par des polémiques et une instrumentalisation de la question de l'enseignement de l'arabe, en particulier par l'extrême droite de manière extrêmement violente. Et on a vu récemment que l'auteur de l'attentat raciste dans le Var s'en était pris sur les réseaux sociaux à Najat Vallaud-Belkacem lorsqu'elle avait évoqué le fait de sortir l'enseignement de l'arabe dans le premier degré qui est fait par des services consulaires pour l'intégrer davantage à une logique étatique et publique et de développer aussi l'enseignement de l'arabe dans le second degré. Donc tant que la question sera source d'hystérisation collective dans le pays, on risque de ne pas avancer et c'est regrettable.
Notre seconde invitée, Nisrine Alzare, nous rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice du Centre de langue et de civilisation arabe lié à l'Institut du monde arabe. Vous parlez l'arabe. Est-ce que vous diriez, je rebondis sur ce que nous dit à l'instant Catherine Navbekki sur ces blocages politiques, vous diriez qu'il y a un tabou en France autour de cette langue ?
Oui, bien sûr. C'est un tabou qui est lié alors essentiellement à la représentation, à l'instrumentalisation de la question de l'arabe dans le débat public, et lié aussi parfois à l'ignorance ou à des fantasmes. Ça peut être positif ou négatif qu'on fantasme, mais oui, il y a un tabou.
Vous le ressentez personnellement quand vous parlez arabe, par exemple, dans des lieux publics ?
Alors, ça m'est arrivé très peu de fois. Une fois dans les transports publics, je parlais arabe. Mais ça m'arrive avec les livres que je lis en arabe dans les transports. Donc, on me pose la question s'il s'agit du Coran. C'est chaque fois que j'ai un livre en arabe.
Donc, le raccourci, c'est écrit en langue arabe, c'est forcément le Coran.
Oui.
Quelle est la langue arabe qu'on enseigne en France ? Est-ce qu'il y a un seul et même arabe qu'on parle en Syrie, en Arabie Saoudite, au Maroc, en Tunisie ? Est-ce qu'il y a plusieurs variantes ?
Oui, bien sûr. Donc, si on peut prendre l'exemple de l'Italie en Europe, parce que c'est un exemple qui s'approche un petit peu de la réalité arabe et la diversité dialectale sur plusieurs échelles. Donc, dans chaque pays, il y a l'exemple de l'Italie, mais dans l'ensemble des pays, il y a une grande Italie où il y a des variations de l'arabe. Donc, des variations sur tous les niveaux, c'est-à-dire phonologique, morphologique, syntaxique. Mais il y a des communs aussi. Donc, il y a des universaux arabes, si j'ose dire, donc qui sont communs entre tous les dialectes arabes.
Mais un Tunisien peut parler en arabe et un Syrien, les deux vont se comprendre.
Alors, la réalité est très subtile. Donc, avant l'ère numérique, c'était plus difficile. Actuellement, il y a plus d'intercompréhension entre les arabophones et dialectophones.
Il y a une uniformisation, on peut dire
non,
ça ?
Mais non, mais plus de compréhension, plus de sensibilisation à la diversité linguistique. Mais avant, donc, plus on est éduqué, plus on comprend l'autre. Moins on est éduqué, moins on comprend l'autre. Donc, on est restreint dans sa propre variété linguistique. Mais ce qu'on enseigne, c'est plutôt l'arabe standard. Donc, l'arabe standard, c'est pas tout à fait l'arabe classique. Donc, c'est un registre plus moderne, médiatique, plus simple, je dirais, et qui peut être compris par tous les dialectophones dans le monde arabe.
Est-ce que la transmission se fait bien dans les familles ? Parce qu'au fond, si les Français, si les enfants apprennent l'arabe de leurs parents ou de leurs grands-parents, il n'y a peut-être pas besoin de l'enseigner à l'école.
Non, mais c'est pardon. Allez-y.
J'allais dire que d'une part, c'est très différent d'une famille à l'autre, y compris pour les raisons que vous avez indiquées de niveau d'éducation des parents. Et puis ensuite, la transmission intrafamiliale, elle peut se limiter, enfin, en tout cas, être concentrée sur le dialecte. Et un dialecte qui, effectivement, peut être extrêmement local. Et l'intérêt d'un enseignement scolaire et laïque de l'arabe moderne, c'est aussi justement d'élargir le champ des possibles et puis aussi que cette compétence linguistique, elle soit reconnue, certifiée, qu'elle puisse être devenir un outil dans le parcours de formation et dans le parcours professionnel.
Est-ce qu'il n'y a pas un risque, excusez-moi, il nous reste très peu de temps, si on développe cet enseignement, de ramener chacun à ses racines et d'empêcher l'intégration ? Je cite une tribune de la députée Renaissance Laure Miller, députée Renaissance de la Marne, qui a été publiée il y a quelques jours dans le journal La Croix. Voilà ce qu'elle écrit. Il ne s'agit nullement de remettre en cause le besoin de cultiver ses racines, d'apprendre la langue de ses parents ou grands-parents. Mais est-ce que c'est bien à l'État d'organiser ça au regard du contexte de fragilisation de la cohésion nationale comme de la nécessité de consolider l'apprentissage des savoirs fondamentaux ? Il y a urgence à supprimer ces enseignements internationaux de langue étrangère. Le rôle de l'école, écrit-elle, c'est de bâtir un socle commun de savoir pour chaque enfant. Cet objectif est loin d'être rempli à l'heure actuelle. Il ne doit souffrir d'aucune nuance.
Alors, ce n'est pas du tout contradictoire avec le socle commun de connaissances. Et puis, il y a l'argument contraire qui dit qu'il faut déradicaliser et il faut enlever, c'est-à-dire supprimer tous les dérives par l'enseignement de l'arabe. Alors, moi, je déplore les deux arguments, parce que c'est une langue vivante, comme l'italien ou l'espagnol, le bambara, le portugais. Donc, les valeurs de la République ne sont pas contradictoires avec l'enseignement du portugais. Je ne vois pas pourquoi il est contradictoire avec l'enseignement de l'arabe. Donc, c'est de la politisation dans les deux sens. Dire que c'est avantageux pour la cohésion sociale ou dire que ce n'est pas avantageux pour la cohésion sociale. Dans les deux sens, en fait, c'est déplorable.
On peut aussi noter, on va terminer comme ça, Nisrine Al-Zahri, qu'il y a des mouvements très intenses entre les deux langues, entre l'arabe et le français, que le français s'enrichit beaucoup de mots arabes.
Oui, comme des autres langues.
On entend beaucoup « wesh », par exemple,
oui,
en ce moment.
Oui, dans certains registres. Donc, moi, je n'argumente pas mon débat avec les emprunts des autres langues, parce que ça existe avec toutes les langues.
Ça, c'est l'histoire des langues.
Oui. Donc, la transmission se fait dans les deux sens, et parfois, à l'inverse, on emprunte de l'arabe, et puis l'arabe réemprunte du français. Donc, ce n'est pas un argument, à mon sens.
Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Catherine Navbetki, secrétaire générale du syndicat CFDT. Merci également Nisrine Al-Zahri, directrice du Centre de langue et civilisation arabe à l'Institut du monde arabe. 13h45 sur Inter. Notre feuilleton, nous sommes avec les pêcheurs de Nice. Cette semaine, la ville accueille, vous le savez, le sommet des océans. Les scientifiques en ce moment, les dirigeants du monde entier, ce sera à partir de lundi prochain. Mais pendant ce sommet, les pêcheurs niçois, eux, ont été priés de quitter le port. Raison de sécurité. Alors l'un d'eux, Steve Molinari, 44 ans, spécialiste des poissons de roche, s'est installé pas très loin, à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Et c'est là que Cécilia Arbonin l'a retrouvé.
De la glace pilée, je remplis mon tonneau, après je mets un seau d'eau salée et je peux tenir au moins 3 heures tranquille avec de l'eau à 2-3 degrés, on va dire.
Tout ce qu'il y a pour faire une soupe, le blavier, des petits sards, des petites amandes, des perches. Le seul poisson qui a disparu, c'est le sabre, on appelle ça l'argentin. C'est le seul poisson que je vois plus, enfin que j'ai pu attraper au moins depuis, on va dire, plus de 10 ans. Alors bonjour, je m'appelle Steve Molinari, je suis pêcheur depuis 15 ans. C'est pas nous en tant que petits pêcheurs qu'on fait du mal. Hein. Il faudrait aller voir plus les gros bateaux industriels, les chalutiers industriels qui ramassent et rejettent plus de la moitié de leur pêche parce que ça fait pas la maille ou quoi. Là c'est des massacres. Hein. On est tous dégoûtés, on nous fait baisser les bras, on essaie de nous faire baisser les bras. On veut plus de nous quoi en fait. Ils veulent laisser que les gros. Maintenant, moi je suis au port de Nice, ils sont tous à côté de moi. Hein. J'ai la douane, les gendarmes, les affaires maritimes. Ils sont à 10 mètres de moi. Et surveillés et tout. La moindre chose, c'est... Ils nous font après un contrôle du bateau, qui nous tiennent pendant 3 heures à voir s'il nous manque pas une...
5 heures ou une connerie.
Voilà, qu'il nous manque quelque chose, et ben après on se prend en plus une amende de 500 euros encore. Il va plus y avoir de relève avec ce qu'ils nous infligent en ce moment comme loi, comme VMS. La VMS, c'est une balise qu'ils vont nous mettre à bord, ça veut dire... C'est comme s'ils nous mettaient un bracelet électronique au pied pour nous pister 24 heures sur 24. Ben, c'est le seul métier où on est autant surveillé comme ça. Hein. Interdiction de ci, interdiction de là, quota pour ce poisson, quota pour ci, quota pour là. Les affaires maritimes sont constamment sur nous. Hein. Ça fait peur. On préfère même pas y penser. Pour moi, l'essentiel, c'est de faire un métier qui me plaît. C'est un miracle parce que quand on tire les filets, on entend les cigales. Et alors ça, c'est fantastique. Ça, c'est une réussite de faire mon métier, c'est ma passion.
Vous avez été bien accueilli d'ailleurs par la profession quand vous avez démarré.
Pendant, on va dire, 6 mois, 1 an, j'ai dû payer ma place au port. Parce que vous savez, quand on arrive, qu'on est nouveau, on est mis à l'essai pendant 1 an. Mais ça veut dire que si on est là juste pour faire, genre dire on est pêcheur, mais on ne travaille pas, ou on ne sort pas, on ne rentre pas dans la prud'homie.
À tout à l'heure.
À tout, hein.
Oh, il y en a des macros, hein, je peux y aller. Hein.
Ah, peut-être que je tombe dessus aujourd'hui alors.
Ils sont
à
50 mètres.
Ah, je suis monté trop haut alors.
Je vais assister à votre départ. Je sais pas, vous prenez un café, vous allez...
Non, je vais partir direct.
Je le remets dessous. Hein ? Non, tu le gardes, hein, ou si tu veux te le recaler. Hein.
Et quand vous revenez, il y a des gens qui vous attendent pour vous l'acheter, votre poisson.
Oui. Ils sont comme les mouettes, hein, vous voyez, ils sont autour là, et dès que j'arrive, ça suit, ça arrive. Des fois, on arrive et je dis, tiens, je suis tranquille, j'ai le temps de monter le banc. À peine que j'ai posé le bac, vous vous retournez, ils sont tous derrière. C'est des locaux, hein, ils ont l'habitude, hein, au port de Nice, ils habitent aux alentours, ils voient arriver avec le bateau et puis ils descendent de la maison. En cherchant la quantité, ça sert à rien parce qu'après il faut la vendre à des prix très bas qui ne nous intéressent pas. Nous, on fait juste pour vivre et vendre bien notre produit. Donc, on va dire une moyenne de 15, 20, 25 kg maximum par jour de poisson. Bah, nous, une dorade, c'est minimum 25 euros le kilo. Donc, vous savez que pour certaines personnes, c'est un coût. Mais le goût, il est extraordinaire. Hein. C'est quand l'habitude, ils ne peuvent plus se passer de nous une fois qu'ils ont goûté notre poisson. C'est une saveur, c'est une finesse incroyable.
Le poisson de Méditerranée défilé à l'assiette. Suite et fin demain, nous serons à Nice.
France Inter, le 13-14.
Restons dans la gastronomie, c'est la France. Le jeudi à 13h50, nous sommes avec Marilus Ribaud du journal Sud-Ouest en direct de Bordeaux. Marilus, vous nous servez aujourd'hui des saveurs du monde avec le Refugee Food Festival qui va se dérouler dans 12 villes de France à partir de dimanche.
Oui, cela fait 10 ans, Jérôme, que cette fête culinaire métissée trace une route singulière. Le Refugee Food Festival part d'une idée toute simple, faire se rencontrer un réfugié et un chef. Ensemble, ils élaborent un menu, fruit de chacune de leurs cultures, et vous et moi venons le déguster le temps d'un dîner ou d'un déjeuner. Depuis 10 ans, 70 000 personnes ont participé à ces banquets savoureux, surprenants, humanistes.
Comment est né ce festival ?
D'un voyage. En 2014, Marine Mandrila et son compagnon Louis partent sac à dos autour du monde. Ils ont 24 ans, sont piqués de gastronomie et ont décidé qu'ils mangeraient toujours chez l'habitant. Jordanie, Liban, Thaïlande, Chine, Mexique, Pérou, Cuba, le Cap-Vert. Ils se régalent et plus encore mesurent tous les bienfaits de l'hospitalité. À leur retour, le ciel s'est assombri. Par centaines, des hommes, des femmes, des enfants fuient la Syrie et se noient en Méditerranée. La réponse de la France et de l'Europe nous a choqués, se souvient Marine. Mon père s'était échappé de la Roumanie de Ceausescu. Depuis toute petite, je savais ce que représentait le quotidien et la douleur d'un demandeur d'asile. C'est ainsi, Jérôme, que ce couple a créé le Refugee Food Festival, en réponse à une colère et à une passion pour toutes les cuisines du monde.
Bilan, au bout de 10 ans.
72% de ces cuisiniers migrants ont eu une opportunité professionnelle. 12 ont ouvert leur établissement. 3 restaurants d'insertion se sont créés. Marine et Louis ont aussi lancé un organisme de formation, un service traiteur à Paris. Leur structure distribue chaque jour entre 600 et 1500 repas d'aide alimentaire à destination des publics vulnérables, migrants ou pas. Le Refugee Food Festival est donc beaucoup plus qu'une fête de début d'été.
Comment s'organise-t-elle ?
Alors, on va prendre l'exemple de Bordeaux. Pendant l'année, la coordinatrice Colline de Silan détecte des cuisiniers avec le concours des associations caritatives, celles qui donnent des cours d'alphabétisation ou gèrent des hébergements d'urgence. Ces réfugiés étaient des professionnels dans leur pays ou de simples amateurs. Mais ce qui les rassemble, c'est le talent. À l'autre bout de la chaîne, il y a des cuisiniers curieux de confronter leurs pratiques à celles d'un Kurde, d'un Ukrainien, d'un Soudanais. Ensemble, ils élaborent un repas et le jour J, c'est toujours complet pour découvrir le résultat de leur métissage. À Bordeaux, Makoura Kanté, réfugié de Côte d'Ivoire, va opérer dans un restaurant universitaire. Salomé Korbaladze, géorgienne, collabore avec le chef étoilé Vivien Durand. Vous pourrez découvrir d'ailleurs l'intégralité du programme partout en France sur le site du Refugee Food Festival.
On en vient à notre recette qui a été imaginée par la marraine de ce festival.
Oui, Georgiania View, un macaron chez Rouge à Nîmes, est l'une des chefs médiatiques de la scène culinaire française. Ce festival, nous dit-elle, fait exploser les préjugés, donne à voir des visages que l'on ne regarde pas et est un appel à la tolérance dans un pays de plus en plus crispé sur la question migratoire. Elle propose de réaliser des œufs brouillés parce que l'œuf est universel, avec finement ciselé de la menthe, de la coriandre, de l'oignon rouge, de l'échalote et surtout un petit filet d'huile de palme artisanale. Oui, oui, ça peut être très bon et ça coûte 5,50€ sur Internet. Et puis vous étendez la brouillade sur du pain grillé badigeonné d'une purée de tomates, un délice qui mêle la tradition française, la Méditerranée et son Bénin natal.
Merci Marilus Ribaud du journal Sud-Ouest pour ce C'est la France aux saveurs du monde. C'est une chanson, Frédéric Pommier. C'est l'humoriste Mélodie Fontaine que l'on retrouve aujourd'hui à votre micro.
Vous pouvez l'entendre chaque semaine dans la bande originale sur France Inter. Elle est par ailleurs en tournée avec son spectacle Nickel. Et c'est une chanson de Benoît Doremus qu'elle a souhaité parler. Sa chanson Un poison. Ce poison, en l'occurrence, c'est celui de la jalousie. Et la jalousie, Mélodie Fontaine connaît bien. Cette chanson, c'est son compagnon qui la lui a fait découvrir.
Il m'a fait découvrir ça parce que, il en sait quelque chose, je suis très jalouse. extrêmement jalouse. Et il m'a fait écouter cette chanson en me disant « Je pense que c'est ce que tu ressens quand tu pètes un plomb. » Parce que je trouve que la jalousie, c'est quelque chose qui décroche, en fait. Tu peux plus réfléchir à autre chose. Tu peux pas te calmer, en fait. C'est terrible, ça. Et tu deviens barjo, quoi.
Ça veut dire qu'au moment où vous faites des crises de jalousie, il n'y a plus que ça qui compte dans votre cerveau.
Il y a un truc qui m'envahit quand ça rentre, où tu te dis ça n'a aucun sens logique, parce qu'en plus j'ai le mec le plus merveilleux au monde et qu'il n'y a pas de raison.
C'est pas un garçon qui est particulièrement dans la séduction
pas
avec les autres jeunes femmes qu'il rencontre.
Pas du tout, mais il est tellement beau. Je comprends pas qu'elle se jette pas tout sur lui. C'est atroce. J'ai bien évidemment qu'elles sont attirées par toi. T'es tellement magnifique. Il fait n'importe quoi. Et cette chanson décrit parfaitement le sentiment de jalousie et ça m'a fait un bien quand je l'ai écoutée que j'en ai pleuré pendant plus de 2 heures. Et je pense que Benoît Doremus est quelqu'un de très jaloux parce qu'on peut pas écrire ça si on n'est pas jaloux. Vraiment.
J'aime pas apprendre, j'aime savoir, je suis pas un mec qui retient les leçons, j'apprends rien, je suis un con. Je vis sur mes acquis, c'est pas les bons, mon cerveau coince par endroits. Quelque chose a dû cramer dans l'hémisphère droit, comme l'acheter par la fenêtre, 100 fois mentalement, quand elle cause à des gens et que des gens lui causent. Je chronomètre, j'implose, j'attends, c'est pas ce que je sais faire de plus intelligent. J'ai l'hémisphère gauche au courant, mais elle trouve qu'on peut frôler la main d'un type par accident. Ça signifie rien pour autant, 3 fois de suite non plus, bien sûr, y'a rien de louche, ça arrive tout le temps, tout le temps. Tu m'enlèves les mots de la bouche, c'est troublant. Ils ont les yeux sur ton cul, mais tu vois pas le rapport, non? Rien que moi, je le mate à mort, je le connais pourtant. Je veux plus entendre parler de ça, je veux plus parler de ça, je veux plus de ça, mais je suis honnête au moins. Tu peux pas m'enlever ça, soulève n'importe quel mot. Coucou, la jalousie est planquée dessous, la petite salope me saute au cou, elle sert fort et je vois flou.
Et c'est en 2004 qu'est sortie cette chanson de Benoît Doremus, Frédéric.
Une chanson miroir pour Mélodie Fontaine, qui, on l'aura compris, est donc terriblement jalouse. D'ailleurs, m'a-t-elle dit, sa fille l'est aussi, et sa mère plus encore.
Chez mes parents, j'ai tout de suite eu ce modèle des deux qui sont jaloux. Ils sont ensemble depuis 45 ans. Mes parents aujourd'hui ont 73 et 75. Ma mère est encore jalouse. Mon père rentre, elle le sniffe et elle fait « ça sent la pute ». Et c'est pas vrai, tu vois. Et j'ai vu ma mère à l'œuvre avec des femmes, c'était terrible, quoi. Enfin, il y avait une nana, un jour, je me rappelle, il y a un dîner, qui rigole à gorge déployée à la maison, une copine, et qui pose la main en rigolant sur la cuisse de mon père. Et ma mère a réagi automatiquement en faisant « Tu peux enlever ta main, s'il te plaît ?» Et j'ai toujours vu ça. Donc, il y a un truc qui, en fait, est peut-être animal, mais qui a reproduit ce schéma de jalousie. Donc, pour déconstruire ça, c'est hyper compliqué, en fait, de se dire « Bon, allez, calme-toi, c'est dans ta tête, en fait. Tout est dans ta tête. »
Mais ça veut dire que vous n'avez jamais fait confiance au garçon avec qui vous avez vécu ?
J'ai un peu de mal avec ça, ouais. Mais je me soigne. J'ai vu quelqu'un qui m'a énormément aidée, qui était un pote de mon père. Et il me dit, ma femme vient de me quitter. Je sais, c'est horrible. Il me fait, non, mais parce qu'elle me trompait. Je fais, yes. Non, mais c'est pour te dire que j'étais pas du tout jaloux. Et que c'est arrivé. Et que si ça doit arriver, ça arrive. Et que c'est comme ça, c'est la vie. Tu peux pas tout maîtriser. Et cette phrase m'a vraiment changé. Ça m'a fait énormément de bien d'entendre ça. En me disant, en fait, oui, c'est vrai que je peux pas tout maîtriser, détends-toi.
Tout ce que t'as dit, je l'ai enregistré, je l'utilise contre toi. T'as rien dit de mal, il paraît, mais la petite salope ne mord pas. Elle me dit, ouais, qui dit qu'elle est où elle a dit qu'elle allait. Peut-être bien qu'elle est en train de baiser, alors qu'il est. Elle me dit, et je dis, non, sans deck. La jalousie, ça rend infect, et tout sec.
Et cette chanson, elle vous a donc fait pleurer quand votre compagnon vous l'a fait écouter.
J'ai eu un soulagement, en fait, de me dire que j'étais pas toute seule. Et en plus, je disais à Francis, je m'excuse tellement d'être comme ça. C'est tellement horrible d'être comme ça. Et j'adorerais qu'il soit jaloux. Ça aussi, c'est un truc de jaloux, c'est d'espérer que l'autre le soit.
Et lui n'est pas jaloux.
Pas du tout. Bah, il dit, bah non, j'ai confiance en toi, je suis un chien. Mince. C'est une manière pour moi de dire je t'aime à la folie. Pour moi, c'est une preuve d'amour.
Alors qu'en fait, c'est juste de la folie.
Ouais, exactement.
La jalousie, c'est pas de l'amour. Je me gourre. Faut que l'une de vous deux se barre. Je sais pas ce que je veux, mais je m'y prépare. Au hasard. Au hasard. Au hasard.
Un poison, Benoît Doremus. C'était donc, Frédéric, le choix de l'humoriste Mélodie Fontaine.
Mélodie Fontaine, actuellement en tournée avec son seul en scène qu'elle jouera notamment demain à Chambéry et le 18 juin au Théâtre de l'Œuvre à Paris.
Merci Frédéric et à demain.